À quoi tu penses?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais.
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine d'actualité locale. Aujourd'hui, on va parler aide à la parentalité, ce sera en seconde partie d'émission. On vous donnera aussi quelques bons plans sortis et des recommandations musicales. Mais tout de suite, parlons vélo et aménagement du territoire en compagnie de Jean-Luc Guichard, qui est porte-parole du collectif départemental Vienne des usagers vélo. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez étudié tous ensemble le schéma d'aménagement de lésions cyclables entre les intercommunalités membres du SCOT Seuil du Poitou. On va détailler tout ça ensemble. Peut-être d'abord revenir sur ce collectif qui est en fait assez récent entre les différentes associations cyclistes de la Vienne.
Oui, alors le collectif, il a déjà un an d'âge. En fait, on l'a créé l'année dernière. Il a été créé à l'initiative de trois associations d'usagers vélo, de deux associations de Grand Poitiers, Vélocité 86, Vélotaf Grand Poitiers, et puis une association de Châtellerault, à Vélo Châtellerault. Voilà.
Et l'objectif, c'était d'avoir un peu plus de poids, justement, par rapport au département et à tout ce qui se fait sur le développement du vélo.
Alors, notre constat, c'est que le vélo progressait bien sur les agglomérations, sur Poitiers, un petit peu à l'extérieur et sur Châtellerault également. Et puis, ça allait de manière beaucoup plus difficile, beaucoup plus lente sur la campagne, en fait, ou sur le périurbain. Et pour plein de raisons. Et donc, on s'était rendu compte qu'il y avait une multiplicité d'acteurs, les communes, les comités de communes, le département, et qu'il y avait besoin de relier tout ça si on voulait faire avancer le vélo à la campagne.
Alors, il y a effectivement un schéma qui est sorti, que vous avez étudié attentivement. Déjà, est-ce que pour vous, c'est une avancée?
Alors, oui, c'est une avancée. On avait découvert, en fait, ce document-là en fin d'année dernière. Et puis, on a eu un rendez-vous avec les représentants du SCOT il y a plusieurs semaines. Alors, il y a le schéma, et puis il y a aussi, surtout, le fait que des communautés d'agglos, des communautés de communes se mettent ensemble pour travailler sur la politique cyclable. C'est davantage cet aspect-là qui nous intéresse. Évidemment qu'il y ait davantage d'aménagement cyclable entre les collectivités, c'est intéressant. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces acteurs-là travaillent ensemble. Quand on regarde la carte, je dirais, de chacune des communautés de communes ou d'agglos, on a l'impression de voir un puzzle avec des pièces éclatées, notamment la carte de Grand Poitiers, qui est quand même assez particulière. Et quand on reconstitue les pièces du puzzle, c'est le SCOT. Les gens eux-mêmes, ils bougent au quotidien, sans arrêt, d'une communauté de communes à l'autre. Donc, clairement, ça correspond beaucoup plus aux usagers, ce rapprochement des communautés d'agglos. En fait.
Et c'est vrai que quand on est usager du vélo, le fait qu'il y ait des politiques différentes d'un territoire à l'autre, c'est insupportable. On ne comprend pas comment circuler dans ces conditions.
Oui, en tout cas, c'est
qu'il n'y ait pas de continuité, quoi.
Alors, c'est pas uniquement, enfin, parce qu'on pense toujours aménagement cyclable par rapport au vélo. Il ne s'agit pas uniquement d'aménagement cyclable, en fait. Il faudrait préciser davantage. Mais oui, c'est rendre l'information visible au-delà d'un territoire, je dirais, communauté de communes, hein, et que les usagers puissent voir de manière plus générale. Alors, quand on va sur le site du SCOT aujourd'hui, il y a notamment une carte, il y a une carte interactive qui permet d'avoir un aperçu quand même global, en fait. Et cette représentation à l'échelle du territoire du SCOT, moi, je pense qu'elle est intéressante par rapport aux usagers.
Et alors, cette progression de déplacement en milieu rural qui reste assez faible, comment vous, en tant que collectif, vous pouvez inciter les communautés de communes, les collectivités locales à développer ça?
C'est ce qu'on fait, je dirais, dans chacune de nos associations. Donc là-dessus, on travaille assez bien avec les collectivités. On essaie également de travailler avec les communes. Alors là, il y a des situations un peu différentes parce que suivant les communautés de communes, la voirie, en fait, cyclable de la communauté peut être sous la responsabilité des communes ou sous la responsabilité de la communauté d'agglomération. Bon, c'est le cas dans Grand Poitiers. Donc Grand Poitiers, par exemple, c'est la communauté d'agglomération qui gère la voirie sur l'ensemble. Sur les autres communautés de communes, il s'agit à chaque fois de chaque commune. Donc le travail est beaucoup plus délicat, en fait, pour avancer. Comment on travaille? Il y a un troisième acteur, c'est le département. puisque le département, en fait, a la charge des routes départementales qui traversent toutes nos communes. Et puis, quand on va dans les communes, le panneau d'entrée et de sortie d'agglomération, il s'arrête assez vite après la commune. Et en fait, il y a des hameaux un peu plus loin, il y a des gens qui habitent un peu plus loin. Et là, bah, assez souvent, la vitesse est trop rapide par rapport à des gens qui circulent à vélo et par rapport à des piétons également, puisqu'ils sont un peu dans la même problématique. On pense aux enfants qui vont prendre le car pour aller à l'école ou au collège. Donc là, il y a un gros travail à faire et il a à faire avec le département, en fait. Donc c'est pour ça que nous, on cherche à rassembler tous ces acteurs. On avait vu le président du conseil départemental l'année dernière, M. Pichon, qui s'est engagé à nous voir avec les EPCI, donc les communautés de communes. Bon, les choses ont avancé un petit peu différemment, mais la promesse est toujours ouverte. Nous, on souhaite travailler avec tout le monde, à la fois donc le département, les communautés de communes, les communautés d'agglos, et puis la préfecture aussi, qui travaille, elle, sur la sécurité routière. Et ça, c'est un vrai sujet aussi, où il y a à faire. Pourquoi les gens ne font pas du vélo aujourd'hui à la campagne ? Assez souvent pour des raisons, je dirais, parce qu'ils ont peur en termes de sécurité, en fait. Donc la sécurité, ça passe en premier par, je dirais, l'abaissement des vitesses, mettre des petits aménagements assez simples pour pouvoir circuler à vélo lorsqu'on va dans sa commune, flécher les trajets qui soient les plus sécurisés sans forcément faire des pistes cyclables. Donc il y a plein de solutions, on a plein d'idées, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. Ce qu'on souhaite, c'est mettre les acteurs autour de la table. Ce qu'on a observé, c'est que sur des départements périphériques, ça avance très très bien. Donc il y a des gens qui ont pris de l'avance sur nous. Quelque part, on peut s'en inspirer. C'est le cas de la Loire-Atlantique, c'est le cas de l'Ille-et-Vilaine, en Vendée, etc. Donc aujourd'hui, la balle est dans le camp des collectivités et du département pour faire avancer la politique cyclable dans les communes.
Est-ce que justement dans les départements que vous citez, c'est pas aussi le tourisme et donc le vélotourisme qui a poussé un petit peu les collectivités à avancer ?
Oui, assez souvent c'est lié. Ce sont des départements où effectivement on a commencé par ce vélo-là, ce type de pratique vélo-là. Ce qui pourrait être le cas sur la Vienne également. Hein. Il y a eu un travail important fait par la préfecture il y a une dizaine d'années avec le CEREMA, en fait, d'analyse des parcours, etc. Donc je dirais que sur la Vienne, on avance assez lentement par rapport à d'autres départements. Les problématiques cyclables du cyclisme du quotidien sont quand même assez différentes du cyclisme tourisme. Alors là aussi, il faudrait préciser que le développement du vélo à la campagne, c'est pas forcément le vélo taf. C'est tous les autres aspects du vélo. C'est comment je peux aller à l'école à vélo, comment je vais faire mes courses à vélo, si j'ai des activités dans ma commune, comment je peux y aller à vélo. Donc c'est tous ces petits déplacements qui font entre 5 et 10 kilomètres. Aujourd'hui, on fait en voiture parce qu'on n'est pas rassuré pour les faire à vélo et qu'on pourrait très bien faire à vélo. Et surtout, je dirais, on peut très bien comprendre qu'aujourd'hui, des gens aient besoin de leur voiture pour aller au travail s'ils font plus d'une vingtaine de kilomètres. Le débat, il n'est pas du tout sur ce sujet-là. Il est sur tous les autres aspects du vélo. Il y a un élément qui a changé radicalement la donne depuis 3 ou 4 ans, c'est le VAE, en fait, le vélo électrique. Et alors lui, il a franchement sa place à la campagne, parce qu'avec un vélo électrique, les distances se sont accrues énormément. Donc les gens font facilement 10 km à vélo. Et les personnes qui se sont appropriées le vélo électrique en premier sont les seniors. Donc on sous-estime aussi les seniors. Et les seniors à la campagne sont assez nombreux. Ils ont acheté, alors moi j'ai eu des chiffres là par rapport à Grand Châtellerault, c'est eux qui ont acheté en priorité les vélos par les subventions. Donc, et ces gens-là, lorsqu'on fait des études, ils nous disent « depuis, je me suis mis au vélo ».
C'est ça, ils ne faisaient pas forcément de vélo avant.
Du tout. Donc le mythe du cycliste sportif qui fait des efforts, etc., il existe et il y a des cyclos du dimanche qui font du vélo comme ça, mais il y a plein de gens qui font du vélo au quotidien. Il y a des enfants, il y a des femmes. J'accompagnais une sortie scolaire il y a une semaine donc à Colombier, à la campagne. On était une quarantaine de gamins, on a fait 30 km à vélo. Donc le vélo, c'est vraiment le vélo pour tous.
Et alors, vous avez réfléchi à de nombreuses préconisations pour développer ce vélo dans la Vienne. Quelles sont les principales ?
Alors, les principales, je dirais que c'est agir sur tout le territoire du SCOT. Donc, contrairement, je dirais, au schéma cyclable qui trace des grands axes, etc., ce qui est important, c'est d'agir dans toutes les communes. Donc, agir dans les communes, c'est mettre des arceaux pour stationner les vélos. Si on achetait un VAE, par exemple, il faut pouvoir le garer en sécurité, pas se faire le faire voler. Il faut limiter la vitesse et faire, je sais pas, des passages vélos qui permettent aux gens de circuler dans la commune. Donc mettre en place toutes ces choses-là au niveau de la commune, il faut favoriser l'intermobilité. Alors on a une chance énorme sur la Vienne, c'est qu'on a un réseau de TER en fait, qui couvre très très bien notre territoire. Comment associer ce réseau avec du vélo et du vélo électrique et des systèmes de location de vélo? Comment harmoniser les locations de vélo entre Poitiers et Châtellerault, par exemple? Il y a énormément de gens aujourd'hui qui font des itinéraires dans les deux sens. Bon, s'ils arrivent à la gare de Châtellerault, il faut qu'ils puissent facilement prendre un vélo et puis aller sur la zone industrielle, et de la même manière à Poitiers, avec des abonnements identiques, sans qu'il y ait des tracas administratifs à faire. Donc là, il y a vraiment des chantiers à faire. Sur les grandes villes, on parle de RER métropolitain. Ah bah, le SCOT, Seuil du Poitou, c'est un des plus grands SCOT en France. Et on est vraiment... Alors, c'est plus de 80% de la population du département. Donc, on a vraiment un chantier ici, on a vraiment des atouts pour développer le vélo et l'intermobilité, mais... Ça va de pair, en fait, avec le travail commun des collectivités. Notre souci, il y a un an ou deux, c'est que dès qu'on interrogeait quelqu'un, la réponse, c'est pas moi, c'est l'autre, entre guillemets. C'est-à-dire que si on demande aux communes de ralentir la circulation à la sortie de la commune, on nous dit, c'est le département. Et puis, on nous dit qu'on ne peut pas changer le panneau de sortie d'agglomération parce qu'on va devoir prendre en charge toute la voirie. Et ça va être des coûts trop importants pour la commune. Donc, il faut qu'on sorte de ces politiques de l'autruche et qu'on soit au service des citoyens, tout type de citoyens, franchement. Et même les automobilistes aujourd'hui sont potentiellement des gens qui font du vélo. Il y a une enquête nationale qui vient de sortir. Les gens qui ne font pas de vélo sont minoritaires en France. 43% des gens ne font pas de vélo. Le reste, ce sont des gens qui font du vélo. Ensuite, si on regarde en détail dans cette enquête nationale, les deux catégories socio-professionnelles qui font le plus de vélo, c'est les chefs d'entreprise et les agriculteurs. Donc, ça mérite d'être regardé et il faut sortir des clichés. Le vélo, ce n'est pas du tout un truc de bobo. C'est un truc qui concerne vraiment tout le monde.
Eh bien, un grand merci pour ce message. En tout cas, Jean-Luc Guichard, porte-parole du collectif départemental Vienne des usagers vélo. Et puis, on espère effectivement que ça va avancer.
Ben oui, il n'y a pas de raison.
On continue en musique. Je vous propose de découvrir le titre 20 ans de Couturier.
Douleur du temps, on dit que je ne fais pas mon âge. Ça semble si important de garder sa jeunesse en otage. Je repense à mes années folles comme un éternel idéal. Réveil dans le mal ce matin, apparemment j'ai plus 20 ans. Ma vie s'étend, je ne ressens que son point mort. Je l'aime. Même si j'y reste, toi mon âge d'or, je t'aime à tort. Sur mon tel, c'est comme ça que je me vois immortel. Les minutes me coulent entre les doigts. À chaque fois, je me jure que c'est la dernière fois. Je vois des chemins sur mon visage et sur ma peau des coquillages. Réveille un peu mieux ce matin. Je suis content, j'ai plus 20 ans. Ma vie s'étend. Je ne ressens que son poids mort. Je l'aime. Encore, je me fous du reste, même si j'y reste. Toi, mon âge d'or, je t'aime à tort. 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 Je t'aime. Thank you.
puissance de professionnel, je dirais.
Pulsar.
Ça, c'est bizarre.
C'est toi en plus.
Et tout de suite, on parle parentalité en compagnie de Anne Dessault, qui est directrice du Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et par téléphone, on a aussi Élise Breton de l'UDAF. Bonjour.
Bonjour.
Merci à toutes les deux d'être venues nous parler donc d'une plateforme téléphonique sur la parentalité que vous venez de mettre en place. Alors peut-être d'abord nous expliquer d'où est venue l'idée, quel était le besoin, qu'est-ce que vous aviez constaté comme manque peut-être sur le territoire ?
Alors, c'est une plateforme qui existe déjà depuis 2017. On refait une communication parce qu'elle est peu utilisée. Mais à l'origine, elle a été créée en fait par un partenariat entre le CIDFF, l'UDAF et anciennement l'association SOILIFA, qui maintenant, donc notre partenaire est Audacia, est soutenue par la CAF. Et les trois associations agissent et assurent un accompagnement individuel et des actions de soutien à la parentalité. Et cette action, ce dispositif, vient en complémentarité des actions déjà réalisées par nos associations. Elle permet effectivement une écoute anonyme et une écoute de proximité. C'est-à-dire que tout parent peut téléphoner donc un numéro vert gratuit et peut avoir une première écoute sur des questions de parentalité ou de difficultés liées à sa fonction de parent.
C'est ça, la ligne d'écoute s'appelle « Questions de parents ». Le numéro est gratuit, c'est le 0800 08 22 86. Je vous le redonnerai un petit peu plus tard. Alors, quelles sont les personnes, les parents qui sont ciblés? Quelles sont les questions qui peuvent être posées à travers cette plateforme d'écoute?
Alors, c'est une plateforme à destination des parents de tout le département. Et il n'y a pas de mauvaises questions ou de questions inutiles. Vraiment, on est dans une ligne téléphonique à destination des parents qui ont des tracas dans la vie quotidienne. Il n'est pas nécessaire, en fait, de rencontrer de grandes difficultés avec ses enfants ou son adolescent. Mais vraiment, c'est, voilà, j'ai une charge parentale importante. Je n'arrive plus à communiquer avec mon enfant. Mon enfant a des problèmes de sommeil. Ça fait une semaine que je galère. Qu'est-ce que je peux faire? L'idée, c'est bien de pouvoir répondre et d'avoir cette écoute et de pouvoir réorienter, si besoin, vers d'autres partenaires.
Alors vous, Élise Breton, vous êtes vous-même écoutante de cette plateforme. Quel est, vous, votre parcours professionnel ou votre fonction?
Alors oui, tout à fait, je suis écoutante. Je suis d'abord éducatrice spécialisée et je suis notamment spécialisée dans l'accompagnement des familles et de la parentalité. Et alors, donc j'ai travaillé dans différents endroits autour de la famille.
Oui, parce qu'en fait, sur cette plateforme des courtes, ce sont des professionnels qui répondent, psychologues, éducateurs, éducatrices en l'occurrence, la personne d'Élise Breton.
Tout à fait. Et on est tous professionnels.
Et quelles sont alors les questions, les interrogations, les inquiétudes sans doute des parents que vous recevez sur cette plateforme?
Alors, elles sont très diversifiées. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que évidemment, être parent à par moment, c'est source de joie, mais c'est aussi très complexe. Et tout parent, dans son parcours de parent, est traversé par de multiples interrogations. Et selon l'âge et les événements de la vie qu'il va traverser. Et donc, du coup, ces interrogations, parfois, ont besoin d'être entendues, et notamment les émotions dans lesquelles vont être pris les parents. Et donc, l'idée de cette ligne, c'est déjà d'être entendu pour avoir une forme de prise de distance avec les notions dans lesquelles le parent est pris à ce moment-là, ou la fatigue, comme disait Anne. Et l'idée, c'est de pouvoir être entendu sans aucun jugement. C'est avant tout une première étape d'être entendu pour se décaler un peu de l'émotion et puis potentiellement pour être réorienté vers des personnes compétentes selon les besoins, et c'est pas pour tout le monde, hein, mais selon les besoins. Donc les interrogations, elles vont être notamment sur des conflits avec les enfants, avec les ados, ça peut être autour du sommeil, ça peut être autour des interdits, de l'écran, autour de la frustration. Ça peut être aussi pour les parents solos qui vivent potentiellement une forme d'isolement, c'est possible, et du coup de la fatigue et ont besoin à des moments d'être soutenus et s'interrogent sur des choses. Ça peut être aussi sur lorsque le couple se sépare, le couple conjugal se sépare, comment on fait pour rester un couple parental si le couple conjugal se sépare, et puis avec toutes les inquiétudes quand le couple se sépare pour l'enfant. Donc voilà, ça peut être très, très diversifié.
Et c'est vrai que ça peut permettre aussi de déculpabiliser peut-être les parents. Les enfants ne sont pas livrés avec un mode d'emploi et on, voilà, tout le monde veut être le parent parfait, mais ce n'est pas facile au quotidien.
Complètement, c'est exactement ça. Et c'est de pouvoir accepter que être un parent parfait, ça n'existe pas. Et que oui, on a tous des doutes, tous des interrogations, et l'idée, c'est de pouvoir échanger autour de ces doutes et ces interrogations.
Ce qui est intéressant aussi, Andesso, c'est que voilà, c'est plusieurs structures, donc c'est IDFF, UDAF et puis Audacia, et donc ça permet aussi ensuite de faire du lien sur le territoire. C'est pas une plateforme qui est loin d'ici. Voilà, ça met tout le monde en lien.
Oui, c'est ça. Ce sont, vous le disiez en fait, des professionnels, Élise est éducatrice pour le CIDFF et Audacia, Pascal et Adeline sont des psychologues cliniciennes, et donc elles connaissent le territoire, elles connaissent les dispositifs, les acteurs, les actrices du territoire, et donc l'orientation, la réorientation peut être plus facile. Et de même, il arrive parfois qu'elles réorientent en interne vers les actions ou les accompagnements dédiés au CIDFF ou à l'UDAF ou à Audacia.
Parce que ces actions ne sont pas forcément connues aussi des parents. Donc ça, c'est une première porte d'entrée aussi.
Tout à fait. C'est une première étape avant, effectivement, la possibilité de pouvoir continuer soit une écoute psychologique dans les services de nos associations ou en libéral, ou, si besoin, de pouvoir être orienté dans le cadre d'un accompagnement à la parentalité. Oui.
Est-ce qu'il y a des évolutions selon la période de l'année, Élise Breton ? Par exemple, là, je pense aux examens en fin d'année. Est-ce que les enfants sont plus stressés, les parents aussi ? Est-ce qu'il y a comme ça, tout au long de l'année, des moments un peu clés sur lesquels vous recevez peut-être plus d'appels ?
Alors, je pourrais pas le dire puisque c'est difficile d'avoir une vision avec des périodes repérées en lien avec des événements précis. Mais effectivement, pour tout parent, la scolarité peut générer des inquiétudes et notamment tout ce qui est passage en classe supérieure ou orientation génère des inquiétudes. Après, c'est difficile pour nous de pointer. Ça va vraiment être dépendre des appels qu'on reçoit.
Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous venez en parler parce que c'est un service qui n'est pas encore assez utilisé, assez connu des parents. Hein.
Oui, tout à fait. On travaille sur la communication parce que c'est un dispositif qui est peu mobilisé par les parents. On a travaillé sur une communication, donc la CAF a envoyé une communication à l'ensemble de ses allocataires. On essaye de travailler avec les établissements scolaires pour que ça puisse être passé par les canaux de type Pronote ou One. L'idée, c'est qu'effectivement, ce dispositif puisse être connu parce qu'il y a un intérêt vraiment d'avoir cette écoute de proximité. Ces trois créneaux dans la semaine, donc les lundis, mardis et jeudis de 11h30 à 13h30. Donc ce sont des créneaux voilà, que les parents peuvent appeler du travail, sur la pause déjeuner, il n'y a pas besoin de se déplacer et on est vraiment sur une réponse immédiate, de proximité et anonyme. Voilà, il n'y a pas de y a un anonymat qui permet voilà, d'aller plus facilement vers cette écoute.
Et encore une question par rapport aux thématiques, Élise Breton, c'est la question des écrans que vous avez rapidement évoquée, qui peut être vraiment source de conflit entre les parents et les enfants ou d'incompréhension. Est-ce que ça, c'est une question que vous évoquez également avec les parents?
Ça peut faire partie des questions, tout à fait. Ça peut faire partie des questions. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait une source d'inquiétude pour les parents et aussi par moments de sentiments. Vous parliez de sentiments de culpabilité tout à l'heure, de sentiments très ambivalents parce que nous, en tant qu'adultes, on utilise aussi beaucoup les écrans et comment on vient poser des règles, un cadre, des limites à nos enfants alors que nous-mêmes, on a du mal à se les poser. Donc, ça peut faire partie aussi des questionnements qu'il peut avoir et pourtant, c'est très important, effectivement, de poser un cadre autour des écrans qui envahissent la vie et qui peut être délétère dans la construction des enfants. Tout à fait.
Un grand merci à toutes les deux, donc Anne Dessault, directrice du CIDFF, et Élise Breton, donc salariée de l'UDEF, d'être venue nous parler de cette plateforme téléphonique Questions de parents. Donc ligne d'écoute, le numéro est gratuit. Vous pouvez appeler lundi, mardi et jeudi entre 11h30 et 13h30 au 0800 08 22 86. 0800 08 22 86. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous, au revoir.
Merci, bonne journée. Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. La Fédération de la Vienne du Parti communiste français vous invite à une présentation de leur plan climat empreinte 2050, une présentation qui aura lieu à la salle Timbaud, rue Saint-Paul à Poitiers, ce mardi dès 18h. Planifier ou subir le changement climatique, voilà le carrefour auquel est arrivée l'humanité. Le plan climat est le fruit d'années de travail de la Commission nationale écologie du PCF avec des militants issus de professions scientifiques. Une conviction au cœur de cette démarche, ce grand défi qui est la lutte contre le changement climatique ne pourra être relevé que dans la justice sociale et la coopération internationale. Donc c'est à 18h à la salle Timbaud. Système chronologique en archéologie, c'est à 18h au centre de documentation de Chauvigny. Mesurer le temps dans les sciences humaines est une condition nécessaire, mais cependant elle n'est pas suffisante. Entre temps cosmique et temps vécu, de la chronométrie à la chronosophie, venez passer votre temps avec Jacques Buisson-Catil, conservateur général du patrimoine, qui donc animera cette conférence. C'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde. Donc, renseignements auprès du musée de Chauvigny. Deux rendez-vous littéraires ce soir, rencontre lecture et culade de livres à 18h au Biblio Café. Rencontrez d'autres lecteurs et lectrices autour d'une boisson. Chaque participant et participante présente ou lit un extrait d'un livre qui lui a plu, quel que soit le genre et l'époque. Et donc chacun pourra aussi donner son livre qu'il voudrait lire aux autres. Rencontre dédicace ensuite de Chloé Baudry à 19h30, toujours au Biblio Café, pour la parution du livre Possession. Voici un extrait. La maison a été vidée, ses débuts ont presque disparu. Recouvert de terre, d'enduit, de ciment, le récit des fondations. Il n'y a personne pour me le livrer. La maison est un corps d'énigme. Agenda de campagne pour Sacha Houllier cette semaine, donc candidat dans la deuxième circonscription de la Vienne. Ce soir, il sera à 19h en réunion publique à Vouillé, à la salle polyvalente, et demain à 19h à Saint-Benoît. Au confort moderne, enfin, ce soir, c'est concert avec Snoopers, c'est du punk. C'est un projet né d'une collaboration entre Connor Cummins, pilier punk local de Nashville, et Blair Trammell, professeur qui se consacre à l'animation et à l'art. Et puis en première partie, il y aura Skyverse, c'est du garage punk. C'est un groupe formé par des jumeaux, Clément et Julien, et rejoint par trois compères, Alex, Sam et Tim. Ils puisent leurs racines dans le garage punk. C'est un groupe local, il y aura même de la sérégraphie en live. Donc rendez-vous à 21h au confort moderne. Sur Pulsar, ne ratez pas à 18h à l'assaut, présenté par La Fève, qui reçoit l'association Sciences du Langage LSF. À 19h, c'est Slamatouva, avec pour invité l'association Si ça vous chante, avec la présidente et quelques adhérents. Ils parleront de handicap dans le milieu artistique. À 20h, c'est Pétale de Sakura. 21h, Culture Dub, avec des places pour le festival Dub Station de Marseille. Et 23h, c'est Novorama. Merci Cortex pour la réalisation technique. On se quitte avec un extrait du troisième album studio du musicien anglais Kamal Williams et ce titre City of God. Thank you.